les arrivants sont en train de s'installer. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette ultime version de l'atelier numéro 2 « Comment mieux travailler ensemble pour plus de lisibilité et d'efficacité pour les citoyens ». Il y a eu donc deux sessions hier après-midi et nous sommes en train d'aborder la dernière session qui a pour thème plus précisément « Quelle équipe autour du magistrat ?». Alors, autour de cette tribune, nous sommes peut-être, nous, une équipe un peu iconoclaste par rapport à tous les participants de cet atelier. Je me présente, je m'appelle Michel de Segonzac et je préside le tribunal administratif de Paris. Donc, je suis magistrat, mais je ne suis pas magistrat judiciaire et je vous dis d'ores et déjà que je ne souhaite pas intervenir dans le domaine des magistrats judiciaires, parce que d'une part, ce n'est pas mon domaine d'intervention, donc je ne serai pas très légitime, et deuxièmement, mes connaissances en la matière sont quand même assez limitées. Je suis là pour vous faire part de l'expérience que j'ai en tant que chef de juridiction et magistrat administratif. Alors, nous avons également comme intervenant Esther de Roy, qui est présidente adjointe du tribunal d'Amsterdam. Donc ça va nous donner qui va nous faire une présentation du mode de fonctionnement au regard du travail en équipe au tribunal d'Amsterdam, qui a pour particularité de juger à la fois des affaires judiciaires et administratives. Donc c'est un peu le pont avec ma présence dans cette tribune. Notre troisième intervenant, deuxième intervenant, puisque moi je ne fais que présider, est Monsieur Jacques Raimondo, à ma droite, qui lui est médecin inspecteur et qui est médecin assistant au pôle de santé publique de Paris, pôle qui a une compétence très large et il vous expliquera tout ça. Donc nous sommes trois pour vous parler au-delà des thèmes que vous avez pu aborder hier après-midi, si j'ai bien compris ce qui m'a été relaté, au-delà du thème du travail entre magistrats et fonctionnaires de greffe au sens strict, nous sommes là pour vous donner des éclairages sur des modes de fonctionnement qui existent, mais qui ne sont peut-être pas les modes de fonctionnement les plus courants dans la justice judiciaire. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant et passer la parole à Monsieur le Président Janas, qui est rapporteur de notre atelier, qui va vous expliquer sa mission.
Alors, c'est une mission que j'espère qu'elle n'est pas impossible, puisqu'il s'agira tout à l'heure, en atelier plénier, de restituer les débats, 6 heures à peu près, enfin 5 heures et demie, 6 heures de débat, en 10 minutes. J'essaierai de faire de mon mieux, j'essaierai de ne pas parler trop vite. Surtout, je ne pourrai pas faire de synthèse exhaustive, c'est malheureusement impossible, ou alors on serait sur un inventaire à la Prévert. Ce sera des lignes de force, et essayer de voir quelle est la moelle, les lignes de fracture, les lignes de divergence qui sont apparues au cours de nos débats. Voilà, je me présente, j'aurais dû commencer par là, mais je suis avant tout un magistrat de terrain. J'ai été longtemps en cabinet, mes pères m'avaient élu président de l'Association nationale des juges d'application des peines, et actuellement à Angoulême, je suis à mon deuxième poste de président, donc j'essaierai de restituer la vision du terrain telle que je l'ai entendue au cours de ces dernières heures.
Janin, qui est responsable de cet atelier et qui va nous donner les « là » différents sur ce que nous devons faire dans un temps donné.
Bonjour à tous. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, mais pour les autres aussi, redire l'importance de respecter l'horaire. C'est un peu particulier aujourd'hui puisque nous devrons retourner en séance plénière qui démarrera à 10h45. C'est pourquoi à 10h30, il faudra que nous ayons fini nos travaux. Le principe est le même qu'hier lors des prises de parole. Bien sûr, vous levez la main, une hôtesse vous apporte le micro. Elle prendra également votre nom et votre fonction pour que les débats puissent être restitués correctement par écrit et sur le site internet du ministère. Pour les personnes qui sont là au titre de la formation continue, le livret a circulé hier et soit il circulera de nouveau, soit il sera, je crois que c'était le cas ce matin à votre arrivée, à votre disposition à l'entrée de la salle numéro 1. Et je crois que c'est tout pour ne pas prendre plus de temps que nécessaire. Merci.
Bien, donc je reprends la parole. Je vais donc vous faire part de mon expérience des aides à la décision, principalement, en tout cas de tout ce qui participe d'une équipe autour du magistrat administratif. Je vous précise que j'ai été en fonction au tribunal administratif de Versailles longtemps, que j'ai fini par présider entre 2007 et 2009 au tribunal administratif de Paris, que je préside depuis 2009, et puis j'ai été également dans deux cours administratives d'appel, les cours administratives d'appel de Paris et de Douai, ainsi que dans un tribunal plus petit, qui est le tribunal de Poitiers, mais qui était un tribunal où j'ai eu une activité professionnelle tout à fait passionnante. Voilà, donc j'ai une expérience un peu variée. Et je ne vais pas, moi, vous faire un exposé très long. Je voulais vous donner quelques idées qui sont également un peu des dadas personnels. J'ai le sentiment qu'on est passé d'une phase où l'idée même d'aide à la décision était un tabou au début des années 2000, en tout cas dans la juridiction administrative. Tabou, pourquoi ? Parce que la majorité des magistrats étaient persuadés que qui dit aide à la décision dit perte d'indépendance du juge dans son pouvoir et son devoir d'examen des dossiers et de prise de position autonome. Et de cette phase-là, qui a quand même duré un certain temps, avec l'entrée en vigueur des différents textes qui ont permis dans la juridiction administrative d'avoir des assistants de justice et des stagiaires, nous sommes passés, en une dizaine d'années, à une phase où, si l'on disait du jour au lendemain d'aide à la décision, il n'y en a plus, pour des raisons diverses et variées, ou peut-être budgétaires, là, je crois qu'on aurait un petit vent de révolte. Donc, c'est quand même assez intéressant. J'ai moi-même, à la demande du Conseil d'État en 2005, écrit un petit article dans la revue Droit Fil, qui était la revue de liaison de l'époque des juges administratifs sur les métiers d'aide à la décision, où je relatais bien que la majorité des magistrats administratifs ne voulaient pas être épaulés dans leur activité juridictionnelle. Et j'avais d'ores et déjà, à cette époque-là, développé l'idée que le temps où le magistrat administratif travaillait stylo à la main pour préparer les dossiers contentieux dont il a la charge, en consultant essentiellement le Lebon, qui est la Bible administrative, et ses tables décennales, est révolu. Le progrès technique a eu raison de ces modalités d'exercice, et parallèlement, je soulignais, que se développait lentement mais sûrement l'idée que sans perdre son indépendance et sa liberté, le magistrat pouvait se faire aider dans son activité juridictionnelle. Tout type d'aide peut être évoqué, la recherche documentaire, l'analyse de stock, la participation au traitement des séries, la préparation des dossiers dans des matières réputées simples, y compris la préparation de projets d'ordonnance et de jugement, étant bien entendu que les aides à la décision ne sont pas les signataires ni même les décideurs de décisions juridictionnelles et qu'il incombe exclusivement au juge de prendre ses décisions. Mais rien ne lui interdit de prendre une décision à partir d'une analyse qu'il pourra valider ou invalider. Et c'est lui qui choisira la décision au final, lui ou l'équipe de magistrats, c'est la collégialité qui joue, ou lui tout seul, s'il s'agit d'un juge unique. Ce qui était à l'époque quelque chose qui était peu admis. Et puis, au bénéfice de dispositions du Code de justice administrative, qui ont permis dès 2002 d'embaucher des assistants de justice. au bénéfice du décret sur les stagiaires, les modalités d'accueil des étudiants d'enseignement supérieur en stage dans les administrations d'État en 2009, le nombre de stagiaires a pu également être accru. Vous avez dans de nombreuses juridictions un panel complet d'aide à la décision qui également comporte des assistants du contentieux qui sont des agents de greffe de catégorie A. Alors, je vais vous donner juste un exemple. Le tribunal administratif, celui que je connais le mieux, le tribunal administratif de Paris, qui juge, en gros, qui rentre plutôt tous les ans 20 000 affaires, qui a été longtemps dans une situation déficitaire en termes de sortie de jugement et avec un stock épouvantable, puisque nous avions 40 000 dossiers en stock au début des années 2000. Ce tribunal a réussi, grâce à un effort concerté et combiné de tous, mais aussi grâce à l'existence d'aide à la décision, à remonter la pente pour arriver dans une situation qui aujourd'hui est très saine, puisque nous n'avons plus que 9 500 dossiers en stock, ce qui correspond à moins de 6 mois de jugement, et que nous avons comme objectif de juger en fin 2014 tous les dossiers des affaires dites normales, c'est-à-dire qui ne sont pas insérés dans des délais particuliers à peu près dans l'année. Nous avons donc maintenant une situation où nous sommes passés d'une gestion de stock à une gestion de flux. Et les aides à la décision ne sont pas sans action et ont beaucoup participé à cette évolution. Pourquoi et comment ils participent ? Il n'y a pas de méthode unique dans la juridiction administrative pour, affecter des missions aux aides à la décision. Généralement, c'est même pas au niveau de la juridiction elle-même que l'on décide des modalités de travail des différentes aides à la décision. Ça se fait au niveau de la formation de jugement. C'est-à-dire que c'est le président de la formation de jugement qui définit avec ses rapporteurs, qui sont les magistrats de la formation de jugement. Alors, une formation de jugement de base est composée de 3 personnes plus le rapporteur public, ce qui est la spécificité de la juridiction administrative. C'est donc le président qui décide, selon l'appétence des magistrats, selon la structure et la nature des contentieux qu'il a à traiter, des modalités de travail, des aides à la décision. Je ne voudrais pas mentir et dire que les aides à la décision ne font pas essentiellement des recherches et des projets de jugement dans les contentieux de masse. C'est bien ces contentieux de masse qui les occupent principalement. Au tribunal administratif de Paris, par exemple, nous avons presque 45% des entrées qui correspondent aux contentieux des étrangers. Nous avons 15% des entrées qui correspondent au dossier de droit au logement, droit opposable au logement, il y a 5 ans, il n'y avait pas du tout de droit opposable au logement, et nous avons quelques 3 ou 4% de dossiers qui correspondent au permis de conduire, aux pertes de points et pertes de permis. Tout ça réuni fait plus de 60% des entrées qui correspondent à des contentieux de masse. Alors, il va de soi que les assistants de justice, même les stagiaires et également les assistants du contentieux participent amplement au travail sur les contentieux de masse. Et ça nous permet de rationaliser les méthodes de traitement, de faire également des modèles de décision selon les différents textes applicables et de coordonner et surtout d'harmoniser les solutions qui sont prises. Mais néanmoins, on s'est aperçu que les aides à la décision, qui sont... je vais revenir là-dessus. Vous avez d'un côté les assistants du contentieux qui sont des agents de greffe, qui font carrière dans le greffe. Mais les assistants de justice et les stagiaires sont des jeunes étudiants qui ne font pas carrière forcément dans la justice et dans la justice administrative et qui sont là pour un temps défini. Les assistants de justice, ils ont des contrats de 2 ans renouvelables. Les stagiaires sont là pour un maximum de 6 mois. Alors, je sais bien que ça va poser la question de la durée effective de présence et donc de l'impact formation et rendement sur la formation. Mais néanmoins, ces aides à la décision stagiaire et assistant de justice donc participent à nos contentieux de masse, ce qui peut se faire très vite quand ils arrivent, parce que ce sont des étudiants qu'on prend en moins au niveau master. Nous, on a très beaucoup de demandes. On doit éliminer, d'après ce que j'ai pu, ce qui m'a été rapporté quand j'ai posé la question cette semaine, au moins 4 candidatures sur 5, hein, pour tellement la demande est forte. Et donc on a vraiment des profils de très bon niveau qui sont également friands de traitements de contentieux un peu plus lourds. Donc selon les présidents, selon les équipes, on leur donne un travail de fond qui complète leur activité dans les contentieux de masse et on essaie d'arriver à un équilibre qui satisfasse tout le monde. Alors, que dire de cette présence des aides à la décision ? Elle est perçue globalement très positivement et elle a un impact très positif sur l'efficacité et l'efficience des juridictions. Et elle a aussi comme impact positif de permettre à des jeunes qui sont destinés à des métiers juridiques, pas forcément magistrats, mais j'y reviendrai, il y en a quand même qui deviennent magistrats, mais qui peuvent être directeurs juridiques dans des administrations ou même dans des entreprises, de connaître le mode de fonctionnement de la juridiction. Et je pense qu'à terme, c'est un vrai investissement pour la juridiction qui permet d'abord à ses futurs peut-être défendeurs ou futurs avocats, parce qu'il y en a qui seront avocats, de bien savoir quelle est l'attente du juge, quel est le mode de fonctionnement, le mode de travail, et donc de nous présenter des requêtes ou des mémoires en défense qui correspondent mieux à l'attente des juges. Elle permet aussi de valoriser nos méthodes de fonctionnement. On est assez fiers de nos méthodes de fonctionnement, on essaie de maintenir un travail de qualité, un travail toujours collégial pour les affaires les plus complexes, mais ça ne correspond qu'à un tiers des dossiers qui sortent, hein, le travail collégial au jour d'aujourd'hui. Un travail avec un juge unique et un rapporteur pour d'autres matières, puis un travail sur ordonnance, mais néanmoins avec cet apport qui permet au juge de prendre du recul sur le dossier et d'avoir un œil critique sur la proposition qui lui est faite et donc de pouvoir changer de position et de vraiment se concentrer sur le travail juridictionnel lui-même. Alors, ça, c'est un des aspects, c'est le rayonnement de la juridiction administrative qui passe par la connaissance qu'ont tous ces jeunes. Alors, on me dit plutôt, on les recrute plutôt vers 25-26 ans. C'est plutôt féminin comme recrutement. Et bien au-delà du master, on essaie de ne pas prendre, on a même des doctorants qui veulent entrer, on essaie de ne pas aller jusque-là, parce qu'on sait qu'ils seront plutôt partants pour peut-être favoriser leur activité universitaire. Alors, les assistants de justice ne sont pas là à plein temps, hein, ils sont là pour 120 heures par mois. Les stagiaires sont là à plein temps. Et donc, voilà, ça a des avantages et des inconvénients, les deux systèmes. Si vous avez des questions sur ces sujets, je pourrais y répondre ultérieurement. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est une filière de recrutement de magistrats. Nous avons des stagiaires qui deviennent assistants de justice. Au tribunal administratif de Paris, on a tous les ans, bon an, mal an, entre 3 et 5. Et nous avons des assistants de justice qui passent le concours de recrutement des magistrats et qui sont également reçus. Donc c'est un investissement qui n'est pas fait sans que la juridiction en profite à terme, parce que quand un magistrat a eu un cursus, et on en a beaucoup maintenant, de stagiaires puis d'assistants de justice, le jour où il commence ses activités de magistrat, il est parfaitement au point, et il connaît bien la juridiction. Voilà ce que je voulais vous dire un peu rapidement sur les aides à la décision. Alors, je parlerai très peu, je pourrai répondre, des experts, bien entendu, on, comme vous-même, comme dans la justice judiciaire, on ordonne des expertises, que ce soit en référé et en avant-dire droit, mais dans des proportions finalement assez limitées. Et nous avons aussi, depuis peu, des possibilités de faire appel à un consultant sur des questions théoriques qui sont dissociables du dossier. Mais c'est quasiment pas utilisé, ce n'est pas encore rentré dans la pratique. Voilà, donc je n'irai pas plus loin pour l'évoquer parce que ça ne correspond pas à une pratique actuelle. Voilà, j'en reste à ces généralités, ce qui permettra peut-être, et je l'espère, des questions ultérieurement. Et je vais donc passer la parole à Esther de Roy qui va nous parler. Alors, on va lui donner un peu plus longuement la parole que prévu en théorie dans le programme. On va lui octroyer plus que les 10 minutes réglementaires. Je ne sais pas si elles sont réglementaires, parce que je crois qu'elle a des choses très intéressantes à nous dire sur ce que c'est que le tribunal d'Amsterdam et comment les juges de ce tribunal se font beaucoup aider par une équipe très élargie. Voilà, je vous passe la parole, madame.
Madame la Présidente, bonjour, je m'appelle Esther de Roy. Je travaille comme juge près le tribunal d'Amsterdam où j'occupe également la fonction de présidente adjointe. La présidente elle-même, un autre membre qui ne fait pas partie de la magistrature et moi-même constituons ce qu'on appelle la commission administrative. Cette commission est responsable de la gestion du tribunal. Chacun de nous gère ses propres dossiers. Personnellement, je suis responsable du process primaire et de la qualité juridictionnelle. En outre, je tiens des audiences, ce que je trouve important pour continuer à entretenir des liens avec le terrain et pour voir comment tout fonctionne. Cela fait maintenant près de 20 ans que je suis juge. J'ai travaillé dans les domaines du droit administratif, le droit des étrangers, le droit de l'aménagement du territoire, le droit social. En plus de ça, j'ai travaillé comme juge aux affaires familiales et comme juge des enfants pendant 7 ans et pendant 5 ans comme juge d'instance. C'est la conséquence de l'obligation pour les juges néerlandais de changer de poste et de domaine juridique tous les 4 ans, à moins d'être un spécialiste. En plus de mes activités comme juge, j'ai été membre de la commission administrative du tribunal pendant 10 ans, une chose que je fais donc toujours. Tout d'abord, cela m'est un grand honneur de pouvoir vous adresser la parole aujourd'hui. Je tiens alors à remercier les organisateurs de ce bel événement. Et je vous prie de bien vouloir m'excuser d'avance pour mon expression verbale et mes erreurs linguistiques. J'aime votre langue et j'aime la justice, c'est parce que je suis ici. On m'a demandé de vous parler au sujet de l'équipe autour du juge aux Pays-Bas. Quel est le rôle du greffier? Comment est-ce que nous gérons la politique judiciaire aux Pays-Bas? Cela me fait très plaisir de pouvoir vous parler des développements récents aux Pays-Bas, car nous venons de finaliser de très importantes opérations de modernisation. J'espère que mon discours pourra vous être utile. Dans ce cadre, j'aborderai le sujet suivant. En bref, comment les juridictions aux Pays-Bas en général sont-elles organisées? Je vous expliquerai l'organisation locale, donc au sein des tribunaux même. Ensuite, je vous parlerai du déroulement de la procédure et des rôles respectifs du juge et du greffier. Puis, j'aborderai la convention juridictionnelle et quand j'ai le temps finalement, je vous parlerai des contacts avec les partenaires externes. Organisation nationale. Depuis janvier 2013, notre carte judiciaire a été revue. Je suis certaine que vous êtes au courant de ce genre de développement, car d'après ce que j'ai compris, on en parle aussi en France. Actuellement, les Pays-Bas comptent 11 tribunaux au lieu de 19 auparavant. Les tribunaux sont donc devenus plus grands, ce qui permet de se spécialiser. Nous avons en outre 4 cours d'appel et en dernière instance, une cour de cassation et un conseil d'État. Les tribunaux sont gérés par une commission administrative composée de 3 personnes, le président et 2 administrateurs. La commission administrative est responsable de la qualité de la juridiction et de l'application uniforme du droit. Cela est prévu par la loi. La commission administrative est également responsable du budget et de la gestion financière du tribunal. Le tribunal d'Amsterdam compte 211 juges, environ 500 greffiers ou secrétaires, c'est le même, je vais vous expliquer, et a un effectif de 500 personnes pour l'administration et les services d'appui, au total donc un effectif de 1200 personnes. Nous tranchons 200 000 affaires par an pour un budget de 80 millions d'euros. La commission administrative en est responsable. Au niveau national, 1,7 million d'affaires sont tranchées par an, dont 25 en matière pénale, pour un total de 2400 juges. Organisation locale. Comment est-ce organisé sur le terrain? Il y a des juges managers. Ils encadrent des équipes dans de divers domaines juridiques. À Amsterdam, nous avons 12 équipes dans les domaines respectifs du droit pénal, le droit administratif, la juridiction d'instance, le droit de la famille et des enfants, le droit commercial et le cabinet du juge d'instruction. Au sein d'une telle équipe travaillent des juges, des secrétaires greffiers, des juristes experts et des assistants administratifs. Le secrétaire est un juriste et occupe une double fonction. D'une part, il assiste le juge dans l'examen de l'affaire. Il prépare l'audience, rédige la décision et fait des recherches juridiques sur la jurisprudence. En cette qualité, il est appelé secrétaire. D'autre part, il assiste à l'audience et établit un procès-verbal. En cette qualité, il est greffier. Le déroulement de la procédure. Je vais à présent vous décrire la procédure et le rôle que jouent le juge et le secrétaire. Il y a quelques différences entre les domaines juridiques, mais en général, la procédure se déroule comme suit. Une fois les affaires arrivées, elles sont traitées par l'administration. Elles sont inscrites au planning des audiences en fonction d'un emploi du temps, lequel indique le nom du ou des juges et du secrétaire. Le juge et le secrétaire ne travaillent pas toujours ensemble. En effet, le duo varie en fonction du nombre d'heures de travail de chacun. Et la plupart des affaires sont traitées par un juge unique. Les affaires seront d'abord transmises au secrétaire, environ une semaine avant l'audience. Le secrétaire rédige alors une note pour le juge en reprenant les faits, les points d'interrogation et, le cas échéant, la jurisprudence pertinente. Comme nous avons pu le voir avant, le secrétaire occupe la fonction de greffier lors de l'audience. Il prend note de ce qui est dit et écoute pour pouvoir discuter avec le juge après. Après l'audience, l'affaire est mise en délibéré, une étape de la procédure qui est secrète, comme chez vous, je pense. En délibéré, le juge et le greffier discutent de l'affaire. Le juge donne alors des instructions pour la décision et les motifs. Le secrétaire joue un rôle important comme partenaire de discussion ou sparring partner du juge. Hier, j'ai entendu parler par les jeunes professionnels, le juge travaille ici seul et pas ensemble. Alors, aux Pays-Bas, on travaille ensemble. La décision est une coproduction. Nous pensons que ça augmente la qualité. Les activités principales des juges tournent donc autour de l'audience et de la décision, laquelle est souvent écrite pour lui. Il en est le responsable final, bien évidemment. Certains secrétaires fournissent un travail de qualité, telle que la décision peut être rendue quasiment sans modification. La relation entre le juge et le secrétaire dépend du gré de délégation, laquelle consiste au transfert des activités du juge à d'autres collaborateurs. On trouve des délégations quasi complètes en matière familiale, pénale, administrative. Dans ces domaines, les décisions sont quasiment toutes rédigées par le secrétaire. Le rapport juge-secrétaire varie entre 1 sur 2 et 1 sur 3 aux Pays-Bas. Le juge est donc entouré de tous les côtés. De cette manière, il peut se concentrer sur les audiences et les affaires plus complexes. En effet, la plupart des affaires, 70% chez nous, sont standards et les décisions peuvent être alors formulées par un bon juriste soutien. À notre avis, cela est moins cher et plus efficace. En effet, la qualité est améliorée du fait qu'une affaire est vue par deux personnes qui discutent du fond de l'affaire. Il ne faut pas oublier... Il ne faut pas oublier de mentionner le juriste expert. C'est un secrétaire excellent chargé de la veille jurisprudentielle et du développement du droit. Il conseille les juges et les secrétaires. Il fait souvent des audiences aussi, mais il est le pilier dans le domaine de la gestion des connaissances. En plus, les juges font des roulements tous les 3-4 ans. Des connaissances sont alors perdu côté juge, mais pas du côté secrétaire et des juristes experts. Les secrétaires changent de service aussi, mais moins souvent. Ce n'est pas non plus obligatoire, mais parfois des voix se lèvent pour introduire des roulements plus fréquents pour les secrétaires. En effet, c'est une manière pour le secrétaire de se développer et d'évaluer. Enfin, il reste les réunions techniques ou les réunions pour parler des développements de jurisprudence. Ces réunions entre les juges et les secrétaires ont en général lieu une fois par semaine ou une fois par mois. On y discute des développements récents et souvent les décisions rendues par l'équipe. Cela est important quand il s'agit du développement du droit ou de donner des lignes directrices. Parfois, on y aborde des sujets problématiques rencontrés par un juge dans une affaire en particulier. Aux Pays-Bas, on a souvent des réunions pour s'accorder sur la marche à suivre à tous les niveaux. Je vais maintenant, pour faire une petite sortie de mon discours, vous parler de la façon dont la qualité de la juridiction est promue. L'attention consacrée à la qualité est pour nous essentielle au maintien de la confiance du public dans le système judiciaire. On pense en premier lieu au niveau de qualité sur le fond des décisions judiciaires. Cette forme de qualité est traditionnellement surveillée par le système d'appel et de cassation. Mais il est à l'heure actuelle accepté que la qualité recouvre aussi d'autres aspects, qui concerne le comportement du juge aux audiences, le traitement des justiciables tout au long du processus et la durée des procédures. Les juges néerlandais doivent répondre à un certain nombre de normes de qualité fixées dans des accords nationaux entre les juges eux-mêmes. Ces normes concernent le temps de traitement, l'intervention en binôme ou de groupe, la relecture des décisions par des collègues, l'exposé des motifs en matière pénale ou des exigences quantitatives au niveau de la formation continue. Il y a aussi des entretiens annuels d'évaluation. Le cadre du juge, le président de l'équipe, se renseigne sur la manière de travailler et de fonctionner du juge et en discute avec lui. Au cours de l'entretien, on regarde aussi si le juge a appliqué les mesures relatives à la qualité. Je vais pour vous parler des conventions. au niveau de la politique judiciaire et juridictionnelle. Les juges néerlandais se sont mis d'accord sur la politique judiciaire dans plusieurs domaines. Comme nous avons vu précédemment, il y a des concertations nationales dans certains domaines juridiques auxquels participent les représentants de tous les tribunaux. Normalement, ce sont les juges cadres. Au cours de ces concertations nationales ou locales, on se met non seulement d'accord sur la qualité, mais également sur la politique judiciaire et juridictionnelle. Et il y a deux types de conventions. La convention sur la procédure et la convention juridictionnelle sur le fond de certaines décisions ou des éléments de ces décisions. En ce qui concerne la procédure, il faut penser au délai pour pouvoir déposer des pièces, un éventuel report de ce délai, des vraies règles de procédure prévues dans des règlements de procédure. Les juges néerlandais ne trouvent pas difficile de respecter de tels règlements. Comme ça, les administrations des tribunaux savent comment agir, et les avocats savent à quoi s'en tenir. Cela évite beaucoup de discussions et a comme résultat que les procédures se déroulent avec la diligence requise. En ce qui concerne les conventions juridictionnelles, il faut penser au fond de certaines décisions. Dans ce domaine, il existe un assez grand nombre aussi. Là, il faut penser à des montants standards pour des pensions alimentaires, des normes d'application de peine, les frais irrépétibles, des sommes d'indemnisation de licenciement. En général, les juges les respectent bien. Mais on peut aussi se poser la question, comme cela est haut et fort de temps en temps, dans quelle mesure ce genre de convention est compatible avec la notion d'indépendance du juge. Cette notion est fondamentale et de la plus haute importance chez nous comme chez vous. Ça peut créer un certain champ de tension et friction. Mais ces conventions ne sont en général pas juridiquement contraignantes, dans le sens où il faut les considérer comme une mesure législative ou réglementaire. L'indépendance des juridictions des juges n'est cependant pas affectée, puisque les juges restent libres pour y déroger. Dans ces cas-là, il faut en revanche bien motiver ces décisions, puisque, sans motivation valable, elles courent le risque d'être annulées en appel. Mais un juge qui considère que, dans un cas spécifique, les conventions des juridictions n'ont pas à être appliquées, pourra y déroger et rendre son propre jugement. Mais comme j'ai dit, la plupart des juges respectent bien la convention. C'est du fait qu'ils ressentent bien la nécessité d'avoir une plus grande unification de la pratique judiciaire. La confiance dans la justice et dans le système judiciaire et son autorité sont considérées comme des valeurs à défendre. Une fois perdues, elles sont difficiles à récupérer. Une plus grande uniformité et unité mène à une plus grande prévisibilité et à une absence de décision arbitraire. Cela est la logique pour instaurer des conventions de politique juridictionnelle. Je vais demander à la présidente si j'avais plus de temps parce que je parle déjà.
Deux minutes. Je suis responsable de l'atelier, donc je ne fais que transmettre cette information.
Ok. Alors, je vais mentionner les contacts externes. Je ne vais pas les expliquer. Nous avons, les juges néerlandais, nous avons beaucoup de contacts avec la société qui nous entoure. Ces dernières années, les tribunaux s'y sont beaucoup investis. Car nous sommes d'avis qu'il faut se tourner plus vers la société et le justiciable. Le tribunal entretient des contacts avec l'extérieur et les intervenants dans de différents domaines. Je crois que ces contacts sont plus fréquents qu'en France, mais je peux me tromper. Aux Pays-Bas, il y a des concertations suivantes. Alors, avec le Conseil pour la protection de l'enfance, avec les services d'aide sociale à la jeunesse, avec les huissiers de justice, la municipalité et le ministère public. D'après notre expérience, ce genre de concertations sont très efficaces. Quand on a les préoccupations de deux côtés, il est plus facile de résoudre des problèmes, tout en restant responsable et en continuant à jouer son propre rôle, une chose qu'il ne faut jamais perdre de vue. Alors, j'espère vous avoir donné une idée de ce qui se passe au sein des juridictions néerlandaises. Et si vous avez des questions, ce serait un honneur d'y répondre le mieux possible. Merci beaucoup.
Oui, je crois que je peux me faire l'écho d'ailleurs de ces applaudissements pour dire que nous vous remercions très chaleureusement de cette introduction détaillée sur l'organisation, le fonctionnement de la justice néerlandaise au tribunal, à partant de votre expérience. Je pense que c'est toujours très, très enrichissant. Ça donne des idées de voir ce qui se passe au-delà des frontières, parce que finalement, nous avons les mêmes missions et des méthodes d'organisation et des modes de pensée qui peuvent être différents pour aboutir finalement à rendre la justice. Et un grand merci de votre intervention, mais nous aurons l'occasion encore, dans le cadre des questions, de vous entendre. Alors je vais donc maintenant immédiatement passer la parole à Jacques Raimondeau, qui en tant que médecin inspecteur au pôle de santé à Paris, vous expliquer à partir de son expérience quel est le rôle des assistants spécialisés. Voilà, à vous la parole.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à vous tous de m'accueillir ici. Donc, les organisateurs de ce colloque ont demandé à un médecin qui a un peu plus de deux années d'ancienneté au pôle santé du TGI de Paris de vous présenter l'activité de la quarantaine d'assistants spécialisés qui existent actuellement en France. Je les en remercie. Je vais donc essayer de vous brosser en une dizaine de minutes un tableau de mon activité ainsi que celle de mes collègues aux côtés des magistrats du pôle santé. Vous n'aurez pas de mal à transposer ce que je vais vous dire aux activités du pôle financier avec lesquelles nous cohabitons. Tout ce que je vais vous dire, évidemment, se situe au pénal. Alors, le pôle de santé publique a été créé en 2003, quelques années après la création du pôle financier. Il héberge actuellement 7 assistants spécialisés, 3 médecins, 2 pharmaciens, un vétérinaire et une inspectrice du travail. Il existe un autre pôle avec un médecin et un pharmacien à Marseille, le pôle santé. Les affectations précises de ces assistants sont variables entre le parquet et l'instruction. Il y a un médecin au parquet, 2 à l'instruction, un vétérinaire au parquet et un à l'instruction. En revanche, un pharmacien au parquet et l'autre à l'instruction. En revanche, le vétérinaire et l'inspectrice du travail sont à temps partagé entre les deux entités. Les affaires sur lesquelles nous travaillons peuvent être séparées en 2 groupes sur un critère qui n'a rien de juridique mais volumique. Il y a des affaires, je dirais, de taille habituelle. Et puis, il y a ces méga dossiers, le contentieux de masse aussi. Nous employons ce terme qui est peut-être perfectible. Caractérisé par la présence de très nombreux plaignants. Le contentieux, vous vous doutez qu'il se caractérise par une complexité technique, complexité relative aux produits de santé, aux procédures de soins, aux appareillages de diagnostic ou thérapeutique, aux référentiels professionnels français ou étrangers, auxquels on peut justement se référer. C'est complexe aussi parce que l'activité médicale est devenue généralement une activité d'équipe et globalement les activités du secteur sanitaire font intervenir généralement une pluralité d'acteurs et les juges doivent s'intéresser à tous ces acteurs. On le voit aussi, par exemple, je faisais référence à l'activité médicale, mais un trafic de médicaments au niveau international ou de déchets présente évidemment aussi ses caractéristiques. La durée des affaires, enfin la période sur laquelle porte le travail du magistrat peut être longue, en particulier à chaque fois qu'on est confronté à ce que nous appelons techniquement des risques faibles, hein, qui sont probablement un des grands enjeux de l'avenir. En santé publique et probablement aussi au niveau judiciaire. Les magistrats s'intéressent évidemment très souvent à des activités qui font l'objet d'un financement socialisé, d'une régulation administrative, d'autorisation, de contrôle. Et donc il n'est pas exceptionnel que les juges s'intéressent à la manière dont les régulateurs ont effectivement ou non régulé. Le travail des assistants spécialisés, ça commence par quelque chose de très général. C'est une aide, un appui technique général aux magistrats. Ça commence par l'aide à la lecture des dossiers techniques, parce qu'il faut être, il est clair que certains documents, au niveau des concepts, du vocabulaire, du jargon, des abréviations, ne sont vraiment pas intuitifs. Le magistrat forcément arriverait à rentrer dans ces documents, mais évidemment, on fait gagner quand même beaucoup de temps. Ce n'est pas qu'un travail de décryptage, c'est aussi un travail de repérage des points critiques des dossiers. Dans le cadre d'un dialogue entre un pharmacien, un médecin, un vétérinaire qui a sa vision du monde et puis un magistrat qui est en train de regarder ce que l'on peut en faire du point de vue pénal. Je caricature, mais c'est quand même de ça qu'il s'agit. Donc ce travail est extrêmement intéressant, un regard croisé. Recherche documentaire, je n'appuie pas là-dessus. Le choix des experts, qui en fait s'articule avec un autre travail, qui est l'appui à la rédaction de la mission. Assez souvent, les juges nous demandent de contribuer à l'affûtage de la rédaction des questions qui sont posées aux experts. Après, effectivement, vous doutez bien qu'en fonction des affaires, on discute de la pluralité des experts. Dans certains cas, on va même assez loin dans le profilage de l'expert. En cancérologie, il peut être parfois évidemment utile de distinguer un chirurgien d'un radiothérapeute. Un pas supplémentaire est franchi lorsque les magistrats nous demandent d'apparaître assez explicitement dans la procédure. Alors ça peut être sous forme de notes cotées, de réponses à des soins transmis, ce qui permet par exemple à un magistrat de pouvoir s'appuyer sur une dodo note pour motiver une décision. Alors, je précise d'emblée, je vais le redire plusieurs fois, que nous ne sommes là que dans un éclairage général de l'affaire, on n'est pas là sur la production d'expertise au point de vue, du point de vue judiciaire. On prépare aussi les perquisitions, on les prépare avec les magistrats ou avec les enquêteurs, on peut y participer. Là, c'est assez simple, que ce soit les archives d'un hôpital, un laboratoire d'analyse biologique ou médicale, on a, disons, une capacité à un repérage, à la sélection des pièces qui peut être tout à fait précieux pour éviter d'avoir des tombereaux de choses après à analyser inutilement. L'analyse, évidemment, des documents. Ensuite, l'exploitation des documents saisis, ça, évidemment, nous y participons. On fait le même travail sur les interrogatoires, les auditions, les gardes à vue avec les juges, les enquêteurs, préparation ou participation. Ça permet d'assurer un éclairage en temps réel. Il y a un argument technique qui est échangé à un moment, qui est avancé, nous pouvons être là pour d'emblée en faire quelque chose. On peut aussi, par exemple, repérer des éléments techniques qui, de prime abord, on les aurait tôt ou tard évidemment repérés, mais de prime abord auraient pu échapper. Un mot rapide sur les contentieux de masse. Donc vous avez vu comme moi dans le journal que l'affaire des sueurs irradiées d'Épinal, c'était à peu près 450 plaintes, 200 expertises, 20 experts différents en fonction des localisations qui avaient été irradiées. Et Épinal n'est pas ce qu'on va faire de plus gros, évidemment, dans le domaine des contentieux de masse. Alors, nous intervenons à différentes étapes. La recevabilité, en fait, c'est assez peu notre affaire. Un assistant de justice bien briefé par le juge et le greffier, généralement, fait bien le boulot. Sauf que de temps en temps, dès le stade de la recevabilité, il y a des cas où on nous demande notre avis parce que le dossier n'est pas tout à fait clair. Sur l'opportunité des expertises, nous avons un travail important, je dis nous, parce que je suis l'un des deux médecins qui travaillent avec les 5 juges d'instruction du pôle, et nous travaillons souvent en binôme avec ma collègue, le second médecin. Sur l'opportunité d'expertise, effectivement, nous faisons un travail assez important pour proposer ou non aux magistrats de déclencher des expertises. Dans ces dossiers qui sont massifs, on a donc beaucoup d'expertises à réaliser. Dans certains dossiers, le problème s'étend à la totalité du territoire de la République, y compris l'outre-mer. Il n'est donc pas question de faire converger tous les plaignants au même endroit. Donc il faut beaucoup d'experts, beaucoup, c'est plusieurs dizaines, répartis sur le territoire français. ce qui nous amène à faire un vrai travail de recrutement qui s'étend à des experts qui ne sont pas inscrits ni sur la liste des cours d'appel et de la Cour de cassation, parce qu'on n'en a pas assez, tout simplement. Donc là, il y a un travail, effectivement, de recrutement, de conviction, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de faire venir des médecins à ce travail d'expertise, mais bon, on y arrive. Ce qui nous amène à avoir une activité un peu de formation des experts et un travail aussi d'harmonisation que nous demandent les magistrats. La formation, entendons-nous bien, c'est de la formation un peu générale, c'est vous êtes médecin, vous allez faire un examen clinique, mais vous allez le faire pour répondre à un juge d'instruction. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est du cadrage très général. L'harmonisation aussi, le cas de la fixation des ITT, lorsque vous avez plusieurs dizaines d'experts pour avoir quelque chose d'un peu harmonisé, est un exemple tout à fait typique. Une activité un peu de mettre de l'huile dans les rouages, hein, c'est ce que j'appelle la gestion des flux, répondre à des tas de petites questions matérielles. Et puis, il y a le travail d'exploitation des rapports lorsqu'ils sont revenus au pôle, lorsqu'on est dans le contradictoire, lorsque les avocats demandent des compléments, des contre-expertises, et où les juges nous demandent de les aider à préparer leur réponse à ces demandes des avocats. L'utilité globale, de manière très synthétique, vous avez compris qu'on peut faire gagner en rapidité, parce que lorsqu'un magistrat a un médecin, un pharmacien, un vétérinaire, une inspectrice du travail sous la main, ce qui est vraiment le cas, hein, nous sommes vraiment logés au même endroit, nos bureaux sont contigus, il y a une possibilité d'avoir des tas de réponses techniques en temps réel. Voilà, donc sans doute de rapidité. Dans un certain nombre de cas, de la précision, hein, j'ai parlé des perquisitions par exemple, probablement peut-être une certaine efficacité mêlée avec ce que les militaires appelleraient de l'agilité, on va dire. Et puis il y a probablement aussi une dimension d'efficience qui est très claire dans les dossiers de contentieux de masse où lorsqu'on limite les expertises inutiles, les contestations, les contre-expertises, compléments d'expertise, bah, probablement qu'on fait gagner de l'argent aussi, c'est un aspect un peu contingent, mais enfin je crois que c'est d'actualité à l'institution. Il y a deux commentaires que je rajouterai ici qui ne sont pas sur la diapo. Il y a une réalité, c'est que les cabinets d'avocats s'adaptent au contentieux médical. Il y a des cabinets qui sont manifestement spécialisés dans le conseil aux victimes. Et de manière générale, on peut être impressionné, je vous le dis en tant que médecin, par la qualité, l'affûtage de l'argumentaire de certains avocats dans des dossiers de santé. Probablement parce qu'ils ont aussi des conseillers techniques. Et donc, il paraît assez logique qu'à cette spécialisation, à cette compétence réelle que l'on rencontre chez les avocats, bah, répondre une spécialisation et aussi un équipement en termes d'assistants spécialisés ou de magistrats spécialisés en face. La deuxième remarque, c'est que les gains que peut procurer un assistant spécialisé dans la procédure, gain de temps, se situent dans une chaîne de production. Hein, ça, c'est vrai pour les contentieux de masse. Et qu'il faut avoir aussi suffisamment de temps de greffier, d'assistants de justice et de secrétaires pour que tout ça reste fluide. Je terminerai avec... au-delà de l'intérêt pour le pôle, c'est aussi un travail qui est très intéressant pour les assistants de justice, hein, en termes culturels et aussi en termes du regard que l'on peut porter rétrospectivement sur nos milieux professionnels d'origine. Donc, quelques questions pour terminer. Y a-t-il un réel enjeu à réfléchir sur l'affectation précise des assistants spécialisés, c'est-à-dire une séparation du travail entre le parquet et le siège, ou est-ce que c'est indifférent d'avoir une activité répartie? La vigilance, hein, qui est nécessaire entre l'activité des assistants spécialisés, qui est une activité d'éclairage neutre, général des dossiers au profit des magistrats, et qui n'est pas une activité d'expertise judiciaire, mais vous avez vu qu'on est sur le choix des experts, l'opportunité des expertises, donc il y a là quelque chose auquel il faut prêter attention. Les magistrats avec lesquels je travaille, ils sont évidemment très 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 vigilants. Je reprends donc cette problématique. Et puis, il faut voir que actuellement, le pôle santé a une dizaine d'années d'ancienneté. Il y a donc déjà un assistant qui a 10 ans d'ancienneté. Au niveau financier, on a maintenant, je crois, des carrières d'assistants spécialisés qui atteignent les 13 ou 14 ans. Que ça commence à poser un problème, je dirais, par exemple, d'organisation de la formation pour ces professionnels-là. Et puis aussi, pour les plus jeunes d'entre nous, un problème de valorisation de la fonction dans nos milieux professionnels d'origine. Voilà, je pense avoir fait 12 minutes. Je vous remercie de votre patience.
Merci beaucoup. Bien, écoutez, j'ai maintenant largement temps de passer aux observations, aux questions de vous-même. Voilà, je vois plein de mains qui se lèvent. Alors, madame, vous avez commencé par lever la main, puis après, monsieur et monsieur... Alors, je vais rappeler la règle du jeu. Vous vous présentez et vous attendez qu'une hôtesse vous amène le micro. C'est bien ça? Alors, est-ce qu'il y a un micro pour madame, là? Ici, au 4, 5e ou 6e rang, sur la partie droite. Non, madame là-bas. Identifiée.
Bien, je me présente, Anne Desmures, je suis première vice-présidente au TGI de Paris. Alors, vous venez, monsieur Raimondeau, de développer le statut des assistants spécialisés, qui effectivement donne toute satisfaction aux magistrats parisiens, mais dont le statut est très différent quand même de celui des assistants de justice. Il ne faut pas le confondre, ça n'a rien à voir. Et en ce qui concerne les assistants spécialisés, vous intervenez au pôle santé, vous intervenez au pôle financier, mais dans les rapports effectivement, qui concernent l'évolution de la justice judiciaire, je me demande s'il n'y aurait pas un intérêt de développer l'intervention des assistants de justice, des assistants spécialisés dans l'hypothèse où les tribunaux de commerce seraient intégrés au TPI. Parce que je pense que dans les juridictions, notamment de taille moyenne, ce pourrait être un vrai apport pour ces juridictions et pour le travail en équipe avec les magistrats qu'apportent actuellement les assistants spécialisés, mais dont les magistrats civilistes actuellement ne bénéficient pas. Et donc, effectivement, dans le cadre de cette intégration des tribunaux de commerce, je pense qu'effectivement, il faudrait peut-être se poser la question de l'intégration d'assistants spécialisés donc dans les TGI. Alors, en revanche, je voudrais parler un petit peu des assistants de justice, qui est quand même quelque chose de très différent dont nous bénéficions, et c'est vrai que j'ai entendu une organisation très structurée de ce qui se passe au tribunal d'Amsterdam, s'agissant de travail en équipe, mais nous, actuellement, donc en dehors des assistants spécialisés qui interviennent de façon très ponctuelle, nous en avons peu, et donc effectivement à Paris seulement un peu. Les assistants de justice, leur présence, c'est sûr, elle est toujours vécue comme très sympathique pour nous dans les juridictions. C'est des apports, c'est un apport de jeunesse, c'est un apport de fraîcheur. Mais j'ai vu dans les rapports que le lien leur serait confié, ils participeraient à l'institution d'un lien avec l'université. Et je me demande ça me semble un peu illusoire de considérer que compte tenu du statut actuel des assistants de justice, parce que effectivement, les assistants de justice dans les tribunaux, ils ne s'inscrivent pas dans un parcours de chercheur. Et donc je me demande si cette proposition, alors à l'exception de quelques exceptions, nous avons actuellement un thésard à Paris, mais effectivement c'est quand même très rare. Alors, je voudrais aussi ajouter que quelle que soit l'aide qu'ils apportent, parce que j'ai une proposition à faire...
Oui, essayez de conclure, parce que je pense que sinon,
Ce que je voudrais dire, c'est que l'aide des assistants de justice, elle est quand même... des assistants de justice, elle est assez inégale, et qu'on peut s'interroger, finalement, sur l'intérêt d'un système, de ce système actuel que nous connaissons des assistants de justice, Si on met en rapport le temps qui est consacré à leur recrutement et à leur formation, au regard du temps pendant lequel ils restent chez nous et qui est souvent lié finalement eh bien, à la réussite à un concours. Et je me demande s'il ne faudrait pas créer un corps particulier, finalement, eh bien, qui serait recruté à temps plein, parce que les assistants de justice ne sont là que 2 jours par semaine, qui ait une rémunération en conséquence, parce qu'actuellement, ça correspond finalement à une bourse pour des étudiants, et qui pourrait d'ailleurs peut-être permettre finalement eh bien, d'intégrer certains greffiers qui pourraient eh bien, être intéressés par donc, cette fonction nouvelle qui serait, ferait partie d'une vraie équipe et qui pourrait s'inspirer effectivement hein, de la proposition qui est faite eh bien, et qui nous est proposée hein, par le tribunal d'Amsterdam. Voilà, c'est ça que je voulais. C'est ce bien. Qui m'a quand même inquiétée et bon, voilà, qui suscite notre interrogation, nous, à Paris, s'agissant des propositions des assistants de justice à proprement parler.
Bien, je vous remercie. Je suis sûre que votre intervention va faire rebondir, monsieur. À vous.
Tout devant, donc. Ici. Là.
Oui, merci. Dominique Ferrière, premier président à Saint-Denis de La Réunion. J'ai deux questions, une pour Madame de Roy et une pour Monsieur Raimondeau. Il se trouve que je connais un petit peu votre organisation, Madame, aux Pays-Bas, pour avoir fréquenté, je vous le disais en aparté, à plusieurs reprises le tribunal voisin d'Alkmaar et que j'y avais emmené un certain nombre de magistrats français et que tous étaient revenus très envieux de ce qu'ils avaient vu en Hollande sur cette organisation de l'équipe de travail, même si c'était dans un stade antérieur à ce que vous avez décrit, parce que vous avez encore évolué et modernisé et complété cette notion de travail en équipe. Je voudrais insister sur un point, ce qui nous avait beaucoup impressionné et ce qui est à mon avis extrêmement important dans l'expérience que vous nous avez partagée, c'est cette structuration entre une part du greffe qui travaille à ce que vous appelez l'administration, c'est-à-dire toute la réception de la procédure en amont et tout son traitement en aval, et puis le travail de l'équipe du juge. Il me semble que chez nous, en France, on évoluera en termes d'équipe de travail autour du magistrat que quand on acceptera d'envisager une modification de la structure même, de notre façon d'organiser le suivi des procédures à l'intérieur de nos tribunaux. Actuellement, ce sont les mêmes personnes qui assurent l'ensemble de toutes les fonctions que vous avez très bien décrites et justement dont vous avez montré le partage dans le déroulement de la procédure. Deux petites questions. Je voudrais savoir, aux Pays-Bas, quelle a été l'influence de cette organisation sur ce que j'appellerais chez nous les corporatismes archaïques. Je ne suis pas sûr qu'en France, je ne sais pas si c'est iconoclaste de dire ça, mais je ne suis pas sûr qu'on aille toujours dans le bon sens dans les rapports entre les personnels de greffe, quel que soit leur corps ou leur statut, et les magistrats. Je ne suis pas sûr qu'on soit meilleur aujourd'hui sur cette question-là qu'on ne l'était il y a 30 ans, même s'il n'est peut-être pas politiquement correct de le dire. Il m'a semblé, en allant vous voir aux Pays-Bas, que les rapports entre les magistrats et les personnels de greffe étaient énormément améliorés par ce travail en équipe que vous nous avez décrit. Je voudrais savoir si vous avez la même analyse. Et la deuxième question, les juges en France, et je le dis avec humilité parce que j'en participe, ont un ego démesuré. La toque qu'on met, on devrait la mettre plus souvent sur notre tête pour voir si elle rentre toujours. Et c'est certainement pour moi quelque chose d'important du point de vue du rapport que vous avez décrit entre le secrétaire greffier et le juge dans ce que vous avez appelé le délibéré. Si vous dites ça à un juge français, personne n'a réagi dans la salle, ça m'a beaucoup étonné, parce que ça m'a étonné que personne crie en disant « mais alors à ce moment-là, le juge décide plus », ce qui pour nous est une aberration. J'ai vu travailler avec un interprète en français, parce que vous parliez de votre langage, vous parlez merveilleusement bien le français, madame. J'ai vu comment vous travaillez en délibéré avec le secrétaire greffier, ce qu'il vous apporte, comment il aiguillonne le juge. Mais j'ai vu aussi que le juge n'abdiquait pas du tout en Hollande son pouvoir de décision. Au final, c'est bien lui qui prend la décision. Est-ce que ça a pris du temps, ça, en Hollande? Est-ce que vous partiez de la même situation que nous? Ou est-ce que d'emblée, les juges hollandais étaient prêts à ce travail-là avec leur secrétaire greffier? Parce que s'ils l'étaient d'emblée, nous, on va mettre du temps à y arriver. Si
bon,
ça a
réponse.
Évolué, ça nous rassurera. Et deuxième question, c'est
attends,
pour M. Raimondo.
Oui,
très vite, les assistants spécialisés, c'est pour le pôle économique, le pôle financier. Est-ce que vous croyez qu'il y aurait une possibilité d'étendre ce dispositif avec des assistants spécialisés non territorialisés? Qu'un juge qui a un dossier médical, par exemple, extrêmement compliqué, mais individuel, unique, qui ne justifie pas d'aller au pôle santé de Marseille ou de Paris, pourrait consulter, pourrait être aidé, par exemple, sur le travail que vous faites sur les expertises. Merci.
Bien, bah écoutez, je vais donner la parole à Esther de Roy pour répondre à la première question sur comment les juges néerlandais ont réussi cette osmose et cette création d'équipe qui leur permet de travailler ensemble sans trop perdre de leur ego.
Merci pour vos questions et vos compliments. C'est un peu plus difficile de répondre à la question parce que je ne peux plus les préparer, mais je vais essayer. Il nous a fallu 10 ans, je pense, 15 ans, pour améliorer la relation entre les juges et la collaborateur, la secrétaire. Il y a 20 ans, quand je commençais au judiciaire, on ne se tutoyait pas et les ports étaient fermés. Mais il y a des notions que la coopération est nécessaire. Et quand cette notion est partagée par tous les collaborateurs, ça va aller. Et ça marche bien en ce moment. Il y a des juges un peu plus vieux, excusez-moi, pour eux, nos juges sont en général entre le 40 ans et le 55 ans, mais il y a des juges plus vieux et ils ont de la peine à travailler avec le secrétaire, mais il faut, hein. Il n'a pas d'alternative en ce moment. C'est une coproduction et ça marche et la qualité est améliorée. Et quand on voit cela, la collaboration est plus facile.
Bien, bah écoutez, vous avez la réponse. Jacques Raimondo, sur la question d'autres matières pour les assistants spécialisés.
Le processus que vous évoquez, monsieur, il existe déjà à dose très, oserais-je dire, homéopathique. C'est-à-dire qu'il nous arrive déjà, avec mes collègues, de répondre à des demandes de magistrats d'autres juridictions sur des dossiers, effectivement, qu'ils ont à connaître et qui ne sont pas des dossiers du pôle. Pour le moment, ça se passe de manière, comme je vous dis, donc ce sont des cas rares, et ça se passe toujours par l'intermédiaire d'un des juges d'instruction, puisque je travaille avec les juges d'instruction, qui ont donc un contact avec un de leurs collègues et qui nous dit... voilà, est-ce que vous pourriez faire ça? Alors, donc, ça veut dire que techniquement, c'est faisable. En revanche, on serait, en termes quantitatifs, tout à fait incapable de répondre à une demande qui ne serait pas homéopathique, comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà.
Sauf augmentation du nombre des assistants spécialisés.
Ah, bon, pardon.
Gwenola Jolicoz, magistrate pendant 20 ans en juridiction et actuellement à l'inspection générale des services judiciaires. Il me semble que ces deux jours de débat nous ont montré à quel point désormais le magistrat ne pouvait plus travailler de manière isolée, que c'était une conception résolument archaïque de notre fonctionnement et qu'il fallait se tourner vers le collectif des juges et le collectif autour des juges. Les trois interventions de ce matin, dont je salue la qualité parce que je pense qu'elles apportent beaucoup à nos débats, elles nous aident à réfléchir collectivement à ce que font les autres et à nous en inspirer, tout en gardant nos spécificités. Nous ne renoncerons pas à ce que nous sommes en écoutant et en regardant ce que font les autres. Je pense que ces interventions de ce matin ont particulièrement conforté ce que le rapport d'Elmas Goyon appelle, dès son titre, l'équipe de justice. Alors, j'ai eu le plaisir de participer aux travaux de cette équipe tout au long de cette année, et nous avons vu ensemble magistrats, greffiers en chef, greffiers, secrétaires administratifs, adjoints administratifs, tous les gens qui participent à cette commission, à quel point le mouvement était prêt, à mon avis, pour travailler en commun. Donc je pense que désormais, le juge doit résolument se tourner vers le travail en équipe. Je pense que nous n'avons plus le choix, et que désormais, à l'orée d'une décennie, vous nous avez dit, madame, qu'il fallait 10 ans, ça n'est rien au regard de l'histoire et de nos vies professionnelles, je pense qu'il faut résolument se tourner vers cette équipe. Cette équipe, je crois qu'elle peut être vraiment définie désormais à 3 niveaux. Il faut que les magistrats travaillent d'abord et avant tout entre eux, le collectif des juges, d'abord entre nous, et je crois qu'il n'est plus possible que nous ne sachions pas ce que fait notre collègue dans le bureau d'à côté. Donc ce travail-là, il nous appartient, et c'est à nous, magistrats, de travailler dans ce sens. Le deuxième point, c'est notre équipe naturelle, normale, habituelle, c'est-à-dire tous les gens qui nous entourent dans les tribunaux, et il faut absolument que nous travaillions au mieux désormais avec nos greffiers, les adjoints administratifs, les secrétaires administratifs qui doivent aussi trouver leur place dans les juridictions. Il faut travailler vers ces équipes, et je crois que les choses sont relativement mûres en réalité, et que beaucoup de greffiers et de magistrats sont tout à fait prêts à franchir cette étape, peut-être encore plus dans les nouvelles générations, mais le mouvement est sans doute prêt, et nous devons nous engager dans cette logique. Le troisième niveau d'équipe autour du magistrat, alors on en a un peu parlé ce matin, ce sont les assistants de justice. J'ai beaucoup aimé que vous parliez aussi des stagiaires, dont souvent nous ne savons pas assez quoi faire dans nos juridictions, alors que nous savons que dans les facs de droit, de nombreux étudiants cherchent à rentrer dans le milieu judiciaire, et nous pouvons les utiliser. Je crois qu'il faut que les magistrats aussi se disent qu'il ne faut plus avoir honte. Parce que maintenant, c'est quasiment ça dans les juridictions. Quand on travaille avec un assistant de justice ou avec un stagiaire, on a finalement presque un peu honte. On se cache presque du collègue parce qu'on voit bien que ça n'est pas considéré comme noble de travailler avec un assistant de justice ou avec un stagiaire. Et je pense que là aussi, les greffiers, collectivement, et les magistrats doivent faire des efforts pour mieux intégrer ces nouvelles fonctions dans les juridictions. Le dernier point auquel je suis assez sensible et je trouvais important d'en parler, c'est le lien avec l'université. Les universités sont souvent trop coupées de nos juridictions, or ils demandent un lien avec les tribunaux, et nous, quand on en a un, quand on arrive à le mettre en place, on s'aperçoit qu'il est très fructueux. Et donc je voulais juste mettre l'accent sur 2 propositions du rapport d'Elmas-Goyon, la 44 et la 58. La 44 qui vise à une proposition assez étonnante, dont on n'avait pas vraiment l'habitude, c'est la notion d'universitaire qui pourrait venir travailler en service extraordinaire au sein des juridictions pour venir enrichir la collégialité. Bon, je pense que c'est une idée qu'on peut creuser. Et puis ensuite, que les assistants de justice puissent travailler avec les fonds universitaires et la recherche universitaire. Voilà, tout ça pourrait constituer une équipe du magistrat pour les années à venir.
Merci, madame. Autre observation ou question ? Monsieur, là-bas, je vois une main qui se lève. Plusieurs ? À vous après, alors. Et vous après ?
Denis Van Promer, je suis procureur adjoint au parquet d'Aix-en-Provence. Je tiens aussi un peu à parler au niveau des parquets que je suis censé aussi un peu représenter. Je partage tout ce qui a été dit et je pense qu'il y a une vraie révolution à faire chez nous, un peu dans le sens de ce qui a été développé aux Pays-Bas, et il faut qu'on y parvienne, c'est clair. Par contre, je crois qu'il faut aussi, et même si c'est tabou, évoquer qu'on ne peut pas toujours faire plus en termes de réorganisation sur fond de pénurie, parce que je crois qu'il y a malgré tout des limites et qu'il faut le prendre en compte. Je vais développer ça juste après, je vais essayer d'être bref. Au niveau dans le rapport d'Elmas-Goyon, il y a énormément de choses positives. Le tribunal de première instance, c'est quelque chose qui me paraît inéluctable et une excellente idée, sauf à revoir, mais ce n'est pas l'objet de cet atelier, les bassins de population, parce que je crois que le critère du département n'est pas du tout pertinent, il est plus raisonné en bassins de population. Mais, et là je vais vous donner... je voudrais parler un peu du parquet. On a besoin... Bon, au parquet, on travaille en équipe. J'ai passé 13 ans au siège, 17 ans au parquet. On travaille paradoxalement beaucoup plus en équipe dans les parquets qu'au siège. Et là, je vais peut-être dire quelque chose qui fâche, mais au siège, il y a une difficulté qu'il va falloir aussi surmonter et remettre en question. même si je pense qu'il est important de pouvoir travailler chez soi au calme, je pense qu'il est important d'être présent au sein des juridictions et trop de nombreux collègues du siège sont absents des juridictions. Or, le travail d'équipe avec les greffes est indispensable aussi dans le cadre d'une présence permanente qui fait qu'on s'enrichit mutuellement et qu'on travaille ensemble. Je reviens sur le problème...
Essayez d'être bref, je suis désolée parce que...
J'essaie d'être bref, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'idées qui se bousculent et tellement de choses à dire. Il y a un problème quand même majeur, et je vais faire le parallèle avec l'hôpital. Je vous donne un exemple, l'hôpital, pour rebondir. Je suis allé tout récemment dans un hôpital à Marseille qui n'est autre qu'une mutualisation de deux hôpitaux. Deux hôpitaux se sont rejoints pour former un seul hôpital dans le cadre d'une mutualisation de moyens intelligente. On n'est pas loin de ce qui est proposé chez nous avec les tribunaux départementaux, TPI départementaux. Cette mutualisation de moyens aboutit à quoi en termes de service des urgences? Vous arrivez au service des urgences, vous êtes accueilli par un agent de sécurité. Aucun personnel médical. L'agent de sécurité, d'ailleurs, pianote sur son iPhone pendant qu'on attend, enfin, sur ses textos personnels. Vous attendez, personne. Et par contre, la salle est vide, il n'y a aucune affiche, mais il y a six petites affiches qui mettent halte à la violence. Sachez que toute menace envers le personnel, toute violence à l'égard du personnel donnera lieu systématiquement à dépôt de plainte. Je pense que vous comprenez où on arrive. Et le résultat, c'est quoi? Absence d'accueil par des médecins, absence de prise en charge pour des personnes en situation de stress, et du coup, violence. Et du coup, agressivité. Il faut penser à ça chez nous pour les permanences de week-end. Les permanences de week-end, actuellement, les magistrats sont seuls. Le magistrat du parquet est seul, il n'a pas de greffier. Ça a été longuement développé à plusieurs reprises. Ça, on est au terme du bilan. Je sais qu'il faut voir la prospective. Il est seul pour tout, hein, y compris...
Faudrait que vous soyez très, très bref, là, non, parce que le temps tourne.
C'est très important en termes de collaboration.
Tout est important, mais l'important, c'est que tout le monde puisse participer aussi.
Voilà, mais c'est pour dire que toute cette réflexion, et on ne cesse d'organiser mieux, on ne cesse d'avancer grâce aussi à l'informatique, à ses développements, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il faut autre chose que des simples palliatifs par des assistants de justice qui sont là sur des temps très courts, et qu'il faut vraiment une volonté aussi d'investir en termes de personnel, même si on doit complètement reformuler nos relations entre nous, on est tout à fait d'accord.
Je vous remercie. Alors, oui, il y avait madame là, et puis je repasserai à gauche là. Madame. Oui, le micro vous arrive. Je vous demanderai de vous le présenter comme tout le monde.
Oui, Brigitte Bruno-Bercher, greffier, UNSA Service Judiciaire. Merci pour votre exposé. Et en ce qui concerne, en tout cas, les représentants du personnel et ceux que je représente, c'est un rêve que nous aimerions réaliser. C'est un premier point. Merci, madame. Je voudrais poser une question à vous, madame la présidente de séance, à savoir, vous avez parlé d'assistant de justice au tribunal administratif et d'une véritable équipe autour du juge en ce sens. Vous nous avez parlé d'assistant de justice, d'une part, et de stagiaires. Vos assistants de justice sont-ils tous, comme dans les services judiciaires, des contractuels? Ça, c'était ma question.
Oui, la réponse est oui.
D'accord. Et je pense que là aussi, nous avons des choses à faire avec des fonctionnaires de qualité pour que ce ne soit plus systématiquement des contractuels. Avec des emplois plus pérennes, ça me semblerait plus cohérent.
On a des assistants du contentieux, également.
Merci. D'accord, merci. Autre point, c'est en ce qui concerne les assistants spécialisés. Il en faut. C'est très important. Moi-même, étant affectée à Paris, j'ai conscience de leur qualité et du besoin du juge en la matière. Difficultés. Sont-ils en contrat à durée déterminée ou indéterminée? Ce ne sont jamais des fonctionnaires, on l'a compris. La difficulté aujourd'hui, c'est que les postes de ces assistants spécialisés, très utiles et trop peu nombreux, ne relèvent donc sur la masse budgétaire que de postes obérés à l'encontre des postes non occupés de fonctionnaires, greffiers en chef bien évidemment, ou de magistrats, fonctionnaires de catégorie A, voire de catégorie A+. Aujourd'hui, sur l'OLFI, l'outil donc du tribunal de grande instance de Paris, il apparaît que ces assistants spécialisés sont pris sur des postes de greffiers en chef déjà trop insuffisants. Je pense que cela, il faut que ça cesse et qu'on assoie ces assistants spécialisés sur du véritable emploi
en qualité de contractuel parfois, parce que nous ne pourrons les prendre en qualité de fonctionnaire pour les raisons que nous connaissons, puisque les postes n'existent pas dans la fonction publique. Mais ça encore, ça nuit au bon fonctionnement, puisque ça obère certains types d'emplois. Merci.
Je vous remercie, madame. Madame, qui avait levé le doigt.
Bonjour, Lara, donc présidente chargée de l'application des peines à Melun, également secrétaire générale de l'ANJAP, Association nationale des juges d'application des peines. Je partage évidemment tout ce qui a été dit jusqu'à présent. J'ai une question sur un point qui peut paraître anecdotique, qui n'a pas du tout été évoqué sur l'équipe autour du magistrat, qui est la question des psychologues et de la supervision. Je sais qu'il y a eu des expériences ponctuelles à Paris pour des fonctions qui émotionnellement peuvent parfois être très difficiles, comme les juges des enfants, les juges d'application des peines, où on peut être face à des situations très compliquées à gérer. Est-ce qu'aux Pays-Bas, vous avez la présence de psychologues dans les tribunaux? Est-ce que vous avez un avis sur cette question?
Oui, donc la question, c'est de savoir s'il y a des psychologues qui peuvent intervenir pour aider les équipes et les magistrats. C'est bien ça, en cas de difficulté?
Oui, je peux donner un exemple qui peut être anecdotique, mais quand vous êtes juge d'application des peines et que vous avez une demande de permission de sortir pour une femme qui a tué son enfant et qui veut aller sur la tombe de son enfant dans le cadre d'une permission de sortir, c'est un des exemples parmi d'autres, évidemment, de situations qui ne sont pas faciles à gérer. Les médecins, pour continuer le parallèle avec l'hôpital, n'hésitent pas, eux, à faire recours aux psychologues dans leurs équipes quand ils sont confrontés à des situations difficiles. Une fois encore, il y a eu des expériences de ce type ponctuelles. Ça pourrait être intéressant pour l'aide et la sérénité pour rendre des décisions de justice.
Merci. Réponse alors.
Okay. Merci. Aux Pays-Bas, on n'a pas d'assistance spécialisée comme ici. C'est très intéressant ce que j'ai entendu de mon collègue ici. Mais nous n'avons pas un système avec des assistants spécialisés. Et des psychologues dans certaines affaires familiales et dans certaines procédures, c'est possible de demander conseil à une psychologue. Mais nous n'avons pas une équipe autour de nous avec des psychologues et d'autres experts. Ça dépend de quelle procédure il s'agit.
Bien, merci. Autre question ? Monsieur. Ah, il y avait monsieur avant ? Non, mais alors, allez. Désolée, hein, mais c'est difficile d'avoir une vision d'ensemble. Monsieur d'abord, et puis vous après.
C'est une question rapide qui s'adresse à vous, madame la présidente. Henri Robert, premier président de la Cour d'appel de Dijon. À propos des assistants de justice et des assistants de greffe, fonctionnaires de catégorie A, vous avez-vous dit que vous employez. Je voulais savoir quelle était la proportion par rapport au nombre de magistrats. Dans les services judiciaires, pour ce qui concerne ma cour d'appel, nous avons 9 assistants de justice qui assistent les magistrats du siège pour 98 magistrats du siège. Donc voyez la proportion, un assistant de justice pour 10 magistrats. Autant dire que c'est quand même une aide extrêmement ponctuelle. Je voulais savoir, dans la juridiction administrative, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la proportion qui existe entre ces assistants et aussi les assistants de greffe dont vous nous avez parlé?
C'est un peu plus important, mais bon, je n'ai pas de statistiques nationales à vous mettre sous la dent, si j'ose dire. C'est variable selon les juridictions, parce que c'est arbitré dans les conférences de gestion juridiction avec le secrétariat général du Conseil d'État tous les ans, en fonction des besoins spécifiques et notamment des charges spécifiques en matière de contentieux de masse des juridictions. Donc je pense, par exemple, que le tribunal administratif de Paris en a peut-être un peu plus, à raison de la, et notamment, et tous les autres tribunaux de la région d'Île-de-France, en raison notamment de la charge importante en matière de contentieux d'étrangers, mais j'en suis pas certaine. Monsieur là-bas.
Thierry Verrette, président du tribunal de grande instance de Dunkerque. J'ai une question pour vous, madame de Ségonzac. Est-ce que les attributions de ceux que vous avez appelés les assistants du contentieux sont du même type que celles des assistants de justice ou des stagiaires, ou est-ce qu'ils ont des attributions spécifiques, puisque si j'ai bien compris, ce sont des fonctionnaires catégorie A permanents qui n'ont pas la précarité des assistants de justice et des stagiaires? Voilà ma question.
La réponse est, là encore, tout dépend des assistants du contentieux. Ils sont effectivement permanents, donc ils ont la stabilité et la connaissance. Donc certains ont des attributions sur une longue période dans des matières particulières. J'essaie, moi, au tribunal administratif de Paris, mais c'est assez nouveau, de leur donner
du management, en ce sens que de les faire encadrer des équipes précisément de stagiaires et d'assistants de justice dans les sections auxquelles ils appartiennent, de façon à leur donner plus que du travail de recherche et de préparation de dossier. Mais là encore, autant de situations, autant de personnes, autant d'expressions de besoins, autant d'adaptations, autant de solutions. Deux dernières questions.
Oui, bonjour. Donc, Emmanuel Fantapi, juge d'instruction à Soissons. Voilà, j'aimerais apporter, donc j'ai entendu un point qui parlait d'une nécessité peut-être de révolutionner les relations, notamment entre les magistrats et les greffiers, en vue de travailler au mieux ensemble. Donc ce serait pour faire état de mon expérience qui est personnelle, c'est-à-dire que j'ai pris mes fonctions en septembre dernier. Donc en fait, je suis à cheval entre la fin de la formation ENM et le début des fonctions, où je tenais à souligner que peut-être que cette formation, cette révolution est déjà en germe quelque part, puisqu'en tout cas, lors de la mouture actuelle de la formation ENM, comme l'auditrice hier l'indiquait, on est vivement encouragé à aller vers l'extérieur, il y a des stages qui se passent, mais il y a également à l'école même des journées de travail avec les fonctionnaires de greffe, notamment. Il y a un pôle administration de la justice qui vise à un petit peu être sensibilisé. Donc peut-être que le temps qui est consacré, que le programme qui y est attribué est peut-être pas encore suffisant. En tout cas, c'est quelque chose qui est en marche en vue de changer les images et de ne pas opposer fonctionnaires de greffe, magistrats, pour se rendre compte qu'il y a des compétences, qu'il y a des charges de travail qui sont importantes et de voir comment on peut faire pour travailler ensemble. Et j'ajouterais que ça a été très utile puisque ça a changé l'image des choses. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas parti avec une image péjorative dans tous les cas, mais on a vraiment un éclairage positif qui est donné. Et ça m'a été indispensable à mon arrivée en fonction, puisque arrivant dans une fonction spécialisée, j'ai eu l'aide et le soutien de ma greffière qui connaissait déjà les dossiers, qui avait pu voir certains actes et qui m'a aidé déjà à prioriser les urgences. Donc ça a été un soutien inestimable pour pouvoir reprendre un cabinet qui était en souffrance et vraiment pouvoir avancer. Et qui a pu également me faire état de certains points qu'elle a pu voir qui ne rejaillissent pas forcément dans les dossiers eux-mêmes, donc que ce soit ce qui a pu se passer lors de certains interrogatoires, des ressentis, des difficultés qui ont pu arriver aussi sur le terrain avec certains commissariats en souffrance. Donc voilà des informations pratico-pratiques qui sont indispensables et un soutien important. Et j'ajouterais peut-être également que ce que j'ai pu voir comme pratique qui existe dans Toujours à l'instruction, une pratique que j'ai pu constater entre certains magistrats, certains fonctionnaires de greffe, c'est notamment sur les écrans de contrôle qu'il y a lorsqu'on prend un acte, quand le greffier a un point qui l'interpelle, quelque chose qu'il n'a pas compris, ou même des fois une question pratique qui lui vient à l'esprit, il peut arriver parfois qu'il le mette, et le magistrat, enfin j'en ai vu beaucoup, que ça ne gêne pas, et qui pose cette question qui effectivement est d'un intérêt très important. Donc tout ça pour dire qu'on n'est pas forcément dans un schéma clivé, et qu'il y a des choses, des pratiques qui ont pu avancer et qui sont peut-être également encouragées par l'école et qui pourraient être davantage encouragées. Étant précisé que j'ai le sentiment que souvent, ça, les rigueurs qui se passent et les affrontements partent d'un problème de connaissance de ce qu'on fait chacun, ce qui peut même arriver entre magistrats, puisqu'entre les formations initiales à l'ENM, où on a 31 mois, on passe dans toutes les fonctions, donc on est sensibilisé aux difficultés du parquet, aux difficultés de certaines fonctions, on travaille au mieux ensemble. Et parfois, les difficultés viennent du fait que certains magistrats issus, notamment d'autres concours complémentaires, qui ne font pas forcément le même cheminement, ne savent pas exactement ce qui se passe dans une fonction de cabinet, ne savent pas exactement ce qui se passe ailleurs, et ont des représentations qui sont erronées. Voilà, tout ça pour dire qu'à mon sens, c'est peut-être une voie qui est déjà en cours et qui aurait lieu d'encourager pour peut-être arriver, madame, à éventuellement la situation que vous évoquez, qui semble fonctionner de façon parfaite, en tout cas, dans le tribunal que vous avez eu à connaître et plus largement aux Pays-Bas.
Merci de cette observation. Une dernière question ? Oui ? Voilà. Dernière observation aux questions.
Bourgogne, présidente du TGI de Reims. En fait, on a répondu aux questions que je me posais, notamment par rapport à vous, madame la présidente, sur la proportion des assistants de justice et des assistants du contentieux par rapport au nombre de magistrats administratifs. Je voulais simplement dire, pour rebondir sur ce qu'a dit la collègue de l'inspection des services judiciaires, je crois encore qu'il y a parfois des scrupules de la part de collègues magistrats à se faire aider. On n'ose pas forcément le dire. Moi, je l'ai constaté aussi. Donc je pense que le rôle aussi d'un chef de juridiction, c'est d'aider à la mise en place. Alors, avec la contrainte, la pénurie de moyens qui a été soulignée, aider à cette mise en place d'une culture de travail en équipe. Et en ce qui me concerne, j'ai récemment passé une convention avec la faculté de droit pour formaliser le recrutement des assistants de justice et des stagiaires également, et pour mettre en place très modestement des équipes et ne pas hésiter à dire aux collègues, travailler avec, vous pouvez travailler avec des stagiaires, avec l'inconvénient bien évidemment que ces stagiaires, ils ne sont pas là pour longtemps, que nous avons un problème de rémunération, c'est-à-dire nous ne pouvons pas les rémunérer, donc nous devons nous limiter à une durée quand même, ce qui est de l'ordre de moins de 40 jours de travail effectif. Donc ça fait, à raison de 2 jours par semaine, 3 ou 4 mois de présence dans la juridiction. Mais je pense en tous les cas qu'il faut essayer, il faut mettre en place ce genre de dispositif pour avancer dans, je l'espère, des moyens qui nous seront alloués pour mettre en place donc ces vraies équipes autour du magistrat. Merci.
Je vous remercie, madame. Je crois que nous allons la clôturer au débat après cette dernière question. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut qu'il y ait un souffle et une impulsion pour développer le travail en équipe. La finalité, bien évidemment, c'est la qualité, la meilleure lisibilité de nos décisions de justice. Alors, je passe la parole à notre responsable d'atelier, madame Jeannin, qui a une petite intervention à faire.
Une intervention personnelle, il y a dans la salle vraisemblablement madame Fazet Frichitabong. Est-ce qu'elle peut se signaler? Voilà, je viendrai vous voir à l'instant. La plénière démarre à 10h45. Pour ceux d'entre vous qui le souhaiteraient, il est possible de rester dans cette salle puisque les débats de la plénière vont être retransmis. Donc si vous êtes bien installé avec vos affaires et que vous ne voulez pas fendre la foule, restez ici, c'est tout à fait possible. Merci beaucoup.